Vivre heureux, vivons Cotier. Une émission produite et réalisée par Christophe Médici.
Chers amis, bonjour. Quelle joie, quelle chance de vous retrouver en ce samedi pour un nouveau numéro de Pour vivre heureux, vivons Cotier. Alors, ben, les beaux jours arrivant, l'envie de changer de trajectoire, de changer de chemin peut vous titiller, peut vous donner peut-être des ailes. Donc, on a eu envie de traiter d'un thème qui est quand même universel et que tout le monde se pose un jour ou l'autre dans sa vie, changer sa vie. Ça veut dire quoi ? Et pour nous accompagner et surtout nous éclairer, nous avons l'insigne honneur d'avoir une très grande dame de la thérapie qui a écrit un très joli livre. On a Luce Janin de Villars avec nous. Luce Janin, bonjour.
Bonjour Christophe.
Et puis avec nous, ma chroniqueuse historique, vous la connaissez tous, elle est avec moi depuis 2015 dans Pour vivre heureux, vivons Cotier, Irène Cazenave, hypnothérapeute. Bonjour Irène.
Bonjour.
Vous savez que c'est une émission interactive, vous connaissez maintenant le numéro de l'émission, vous pouvez poser vos questions à Luce, elle est là pour vous pendant toute l'émission et évidemment on est là pour vous éclairer, Irène aussi et moi, votre serviteur. Luce. Très, très, très heureux de vous accueillir enfin à Dynamique Radio. Lucie, on peut vous présenter, vous êtes thérapeute, psychothérapeute, psychanalyste, vous êtes fondatrice d'une grande école à Paris. Comment s'appelle votre école à Paris, Luce ?
C'est l'IFG qui fait partie du groupe Omnes et qui est une école de coaching où on enseigne le coaching clinique, c'est-à-dire le coaching moins axé sur des process, sur l'organisation, mais sur l'interaction entre la vie personnelle et la vie professionnelle.
Et la vie professionnelle. Alors, on est là aussi aujourd'hui pour parler de ce livre que vous aviez commis chez Michel Lafond, hein, que j'ai vraiment trouvé passionnant, dont le titre est « Changer sa vie ». Le sous-titre est pas mal aussi, « Il n'est jamais trop tard ». J'aime bien le titre. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Changer sa vie, Luce. Tout le monde, un jour ou l'autre, se pose des questions à 20, 30, 40, 50, 60, 95 ans. Est-ce que je suis en train de la réussir ou de la rater, ma vie, n'est-ce pas ? Pourquoi a-t-on envie de changer sa vie par moment ?
Je pense qu'on a envie de changer sa vie parce qu'on vit des tranches d'existence avec des éléments professionnels, personnels, émotionnels et qu'à un moment donné, on a parfois l'impression, juste ou pas juste d'ailleurs, d'avoir terminé quelque chose et même d'être enfermé dans une sorte de bulle. On se sent à l'étroit dans cette vie-là, même si on n'est pas malheureux.
Irène Cazenave.
Oui, complètement. Il y a à la fois alors, des moments qui sont connus, la crise de milieu de vie, mais à tout moment, il peut y avoir cette notion de se dire est-ce que je suis vraiment à ma place ?
Est-ce qu'à un moment donné, et là on rejoint Natacha, qu'elle est streamée, qu'on a invitée aussi, ma grande copine, on peut se demander, est-ce que je suis à ma place ? Vous avez un passage dans le livre comme ça, hein, où la personne se dit « Ah mais je suis peut-être en train de me tromper de trajectoire » ou « j'ai pas accompli ma destinée ». Vous employez un peu cette expression, ça, Luce Janin de Villars.
Alors c'est vrai, parfois on n'a pas l'opportunité, on n'a pas la chance de pouvoir se réaliser ce à quoi on avait pensé quand on était enfant, ado, jeune adulte. On est obligé de s'orienter dans une direction professionnelle, sociale, culturelle, qui n'est pas celle portée par nos désirs les plus profonds. Et à un moment donné, ça va remonter. Cependant, je crois quand même que le changement, c'est quelque chose de permanent. Sur le plan physique, émotionnel, biologique, psychique et même spirituel. On change tout le temps, à tout instant.
C'est la loi c'est la loi de l'impermanence
c'est
des bouddhistes.
C'est l'impermanence.
Oui, l'impermanence des bouddhistes. Ouais.
Voilà. À chaque instant, la page est tournée. Ouais. On ne s'en aperçoit pas forcément.
Vous dites au début du livre, dans un des tout premiers chapitres, Luce, que parfois l'inconscient décide. Alors, c'est passionnant, de la part d'une psychanalyste en plus. Mais vous dites ça, hein, j'ai un passage, oui, il arrive parfois où l'inconscient décide. Pour les auditeurs de Vivons Cotier, qu'est-ce que ça veut dire que l'inconscient décide ?
Si je réécrivais le livre aujourd'hui, je crois que j'enlèverais parfois. Parce que
vous diriez toujours.
La plupart du temps, c'est l'inconscient qui décide. Il faut avoir beaucoup travaillé sa vie. Il faut avoir fait un vrai chemin personnel de réflexion, je dirais même d'élévation et de purification pour pouvoir contrôler plus ou moins cet inconscient.
Oui, Jung disait que c'est la conscience, c'est comme une coquille de noix sur un océan déchaîné, et l'océan, c'est l'inconscient. Irène Cazenave, c'est quoi que l'inconscient décide, vous qui êtes hypnothérapeute?
Et alors, j'ai envie de dire complètement, c'est comment on se laisse agir et comment on n'est pas, comment on n'agit pas soi-même, on se laisse agir. Et il y a dans votre livre aussi comment on est influencé par nos milieux, par nos familles. De comprendre ça, ou à un moment, comment on peut s'émanciper, changer sa vie, c'est aussi cette émancipation.
Luce Jeannin de Villars.
Bien sûr, je crois qu'on est tous des porteurs de valises, et parfois on porte même des malles avec des bagages à l'intérieur vraiment très très lourds. On est dépendant de la famille dans laquelle on est né, de sa dimension sociale, culturelle. Est-ce qu'on a de l'argent, pas d'argent? Est-ce qu'on a une religion, pas de religion? Est-ce qu'on est né en Bretagne ou à l'étranger? Et tout ça, ça va nous marquer de manière profonde, y compris de manière, je dirais, physiologique, parce que ce qui existe, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, qui transforme le génome à chaque incarnation, dirais-je.
Vous dites à un moment donné, dans un des premiers chapitres aussi, l'idée, parfois, quand on veut changer, c'est de rompre avec un certain système familial. Il y a un système familial qui a créé des choses. Voilà. Vous pourriez en dire un peu plus pour nos auditeurs?
Oui, quand le système familial est trop enfermant, quand il nous donne le sentiment d'être bloqué sur notre route, il est nécessaire de secouer l'armure, de déployer ses ailes. Mais c'est vraiment très difficile parce que ça constitue un marquage important. Ça passe par des rencontres, ça passe par des lectures, ça passe par un travail personnel qu'on fait en utilisant tel ou tel outil. Mais comme ça, du jour au lendemain, en claquant des doigts, c'est assez difficile.
Irène Cazenave, rompre avec le système familial.
Et c'est bien comprendre que d'agir à contrario du système familial, c'est pas rompre avec le système familial. Qu'on fasse la même chose ou qu'on fasse le contraire, c'est pas tout à fait une rupture. La rupture, elle est effectivement beaucoup plus, j'ai envie de dire, subtile et beaucoup plus complexe. C'est trouver son propre, c'est là encore trouver son propre chemin. Quand on agit au contraire, on n'est pas dans une véritable rupture. On agit toujours par rapport à.
Luce.
Mais c'est difficile parce que rompre avec les imprégnations sociales et culturelles, psychologiques, conscientes, inconscientes que nous avons reçues, ça nous met souvent dans un système de déloyauté. Quand j'ai écrit Changer sa vie, j'ai rencontré plein de gens qui professionnellement, socialement, culturellement avaient complètement rompu avec leur milieu et qui me disaient, quand je vais voir mes parents tous les mois, tous les deux mois, on n'a plus de langage commun. Cette langue maternelle, c'est important, la langue maternelle, c'est Dolto qui en parle, elle appelle ça la langue du lait, c'est la langue des berceuses, de la douceur et de la tendresse, cette langue se perd. Et me disait un homme qui était précisément un homme de radio, il me disait, je les retrouve avec plaisir et on parle de la pluie et du beau temps. Et ils sont heureux de ma réussite dans les médias, mais en même temps, à un moment donné, ils me disent, maintenant, tu te crois quand même.
Mais c'est intéressant ce que vous dites parce que, alors revenons à Virginia Satir, la grande thérapeute de la famille aux États-Unis. Elle dit dans certains de ses livres que 80% des familles sont peu ou prou, je dis bien peu ou prou, dysfonctionnelles. Voilà, est-elle en dessous ou au-dessous de la vérité? Je ne suis pas là, c'est vous les cliniciennes, mesdames, moi je suis juste coach formateur. Alors, une chose est sûre, Volins-Nolin, c'est que quand on a eu un milieu familial qui a été très enfermant, j'ai bien aimé ce que vous avez dit, cette espèce de névrose de loyauté. Moi, le jour où mon psy m'a fait peut-être le plus de bien, et Dieu sait si j'en avais besoin à la vingtaine à ce moment-là, c'est quand il m'a expliqué que je ne leur devais plus rien. Et il y a des gens, comme disait Tristan Bernard, qui sont toute leur vie dans une salle qui s'appelle la salle d'attente de la maison. Ils attendent l'amour qu'ils n'ont pas eu à 1 an, 2 ans, 3 ans, mais ils l'auront jamais, Luce. Et ça fait des vies ratées parfois, ça.
Et ça fait des vies ratées, c'est vrai, mais avec des gens qui tiennent à cette névrose. J'en ai beaucoup en ce moment. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est le temps qui fait. Des gens qui sont finalement malheureux, qui ont les moyens mentaux, psychologiques et même concrets, pratiques, de bouger leur vie et qui sont là à attendre quelque chose qui serait un satisfecit familial et notamment maternel. La puissance des mères.
Ça, la puissance des mers. Mais les mers qui peut détruire aussi. Hein.
Bah, la puissance des mers, en bien.
Dans la tragédie grecque, il y a une mer qui tue. Hein. C'est comme, je sais pas, dans la, comment s'appelle cette mer qui tue dans Schyl, Sophocle et Euripide ? C'est Médée. C'est Médée,
Médée,
c'est
Médée, Médée
qui
ouais.
tue. Irène Cazenave, que, par rapport à vous aussi, qui avez un cabinet à Paris très connu, ce que dit Luce en ce moment, c'est monnaie courante en ce moment, ça ? Vous recevez ça, les thérapeutes ?
De vouloir garder... Des gens qui, ouais. Mais dans une société qui est quand même très anxiogène, on se rattache à ce qu'on peut. Et la famille, c'est compliqué de s'en défaire. Il y a une notion de... Mais oui, c'est compliqué, c'est extrêmement difficile.
C'est pas moi qui vais dire c'est le contraire.
Il y a la systémie. Il y a un moment où, oui, il y a sans doute des attentes qui sont fantasmées. Mais si on ne... Plus la société est anxiogène et plus il y a ce rattachement, même toxique, j'ai presque envie de dire cette emprise, qui peut avoir lieu. Parce que pour se détacher, il faut pouvoir s'attacher à autre chose.
Alors
c'est joli,
je disais,
ça.
C'est dans l'air du temps, mais il est probable que les 2 ans d'enfermement à moitié avec le Covid ont ramené les gens vers ce que décrit Irène, c'est-à-dire un noyau dur, pas forcément idéal, très imparfait, mais au moins connu, cette vieille canne de vieillesse.
Ouais, on va passer une page musicale, restez avec nous, c'est passionnant. Le livre de Jeanne Adula vaut vraiment le coup, Changer sa vie, chez Robert Michel Lafon. Vous pouvez nous appeler aussi, n'hésitez pas, Luce est là pour vous. On passe une page musicale.
Où l'air est plus doux, où la colombe vole en dessous, où le printemps entre un jour comme un fou. Saisis au revers, au détour d'un chemin vert, et vous dit ça va pas comme ça. Changez tout, changez tout, votre monde ne tient pas debout. Changez tout Changer tout. Je veux aller dans l'après-midi d'un jour où rien n'est interdit, où le bonheur sans faire de comédie vous salue sans manière et vous parle à cœur. Qu'est-ce que t'as bien fait de changer tout, pour une vie qui vaille le coup. Changer tout, changer tout, changer tout, changer tout, changer tout. Qu'est-ce que vous feriez sans nous? Après tout, changez tout, changez tout. Changez tout, changez tout.
Le grand Michel Jonas qui nous dit qu'il faut tout changer. Bah, je ne sais pas s'il faut tout changer. En tout cas, nous avons la chance, nous, d'avoir Luce Jeanin de Villars avec nous sur le plateau de Dynamique Radio dans Pour Vivre Heureux, Yvon Cotier, qui nous parle de son livre passionnant « Changer sa vie ». Vous êtes très intéressés, vous êtes très très nombreux. On essaiera de tous vous prendre, mais en tout cas, vous appelez beaucoup. On a un premier Radio Cotier.
Christophe Médici, Radio Cotier.
Bonjour Christelle.
Bonjour.
Nous sommes ravis de vous accueillir sur les ondes de Dynamique Radio. Rapprochez-vous de vos téléphones qu'on vous entende bien. Vous savez que donc c'est Luce Jeanin de Villars qui nous fait la joie d'être là. Qu'est-ce que vous avez envie de poser comme question à Luce?
Bonjour, merci Christophe, merci Luciana pour toutes vos précieuses informations et aides. Alors ma question par rapport en fait au changement professionnel et de vie,
oui.
se porte surtout sur les problématiques d'identification de la mission de vie par rapport à l'objectif en fait, comment faire, quelles sont les peut-être des petites astuces pour poser déjà des actions pour manifester le changement lorsque on est en cours d'identification de notre projet de vie, de ce qui nous anime. Vraiment, dans cette transition-là, vraiment, comment
c'est
poser les choses.
C'est une très, 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 très bonne question, Christelle. Luce Jeannin de Villas, comment savoir qu'on est vraiment sur sa mission de vie ?
Bonjour Christelle, déjà.
Bonjour.
Je pense qu'il faut faire bien établir la différence entre ce que j'appellerais la volition, le vœu pieux, j'en ai assez, je suis fatiguée, et de véritables envies. Et par conséquent, ça me paraît important de les formaliser par l'écrit. L'écriture, c'est un petit peu magique, comme dans la Bible où l'on dit au début, au commencement était
le Verbe.
Était le Verbe. Et quelque chose qui est posé devient une forme de magie, une forme d'intention qui permet de se révéler à soi-même. Alors, notez tout ce qui vous passe par la tête, et peut-être que vous avez déjà des projets tout à fait élaborés, et puis mettez-le dans un tiroir. Et reprenez-le. On peut aussi le réaliser en faisant un collage. On cherche des images dans des magazines, on prend une grande feuille de papier, on colle dessus toutes ces envies, tous ces rêves qui nous ont traversés, réalisables ou moins réalisables. Mm-hmm. On range et on reprend au bout de quelques temps. Ça s'appelle la carte du trésor.
Qui est-ce qui avait fait faire ça dans un de ses livres ? Vous en parlez dans votre livre. Je crois que c'est celle qui a écrit les livres sur la visualisation. C'est Shakti Gawain, non ?
C'est Shakti Gawain.
Dans la visualisation créatrice.
Ouais. Voilà.
Et ça rejoint, Christelle, le tableau de visualisation des Américains quand ils font travailler sur la loi d'attraction. Vous voyez un peu, Christelle. Hein, ça vous fait écho comment ce que vous dit Luce Jeannin de Villars ?
Écoutez, ça donne des petites astuces concrètes. Donc écrire, c'est effectivement assez intéressant parce que j'aime bien l'idée de pouvoir mettre sur papier, on est face à soi-même et puis il y a quelque chose vraiment de l'ordre de la manifestation. On s'est manifesté, c'est écrit, c'est là, c'est tangible.
C'est ça.
Donc ça me parle énormément et c'est vrai que pour l'idée du visual board, c'est vrai que peut-être je me dis que je devrais peut-être aller plus en profondeur et être plus audacieuse à vraiment découper des personnages dans des journaux et puis mettre ma tête par-dessus, même si ça fait un peu
Mais pourquoi pas. Irène Casnav, qu'avez-vous envie de faire comme feedback vous aussi à Christelle?
Alors, d'une part, c'est extrêmement intéressant. Ce que je disais tout à l'heure, c'était de pour lâcher quelque chose, il faut savoir où on va. Et d'avoir un tableau de visualisation, ça permet aussi d'avoir une direction.
Ah ben, c'est ce que vous dites. C'est penser à la phrase de Sénèque. Il n'existe pas de vent favorable, chers amis auditeurs, au marin qui ne sait pas précisément où il va. Donc, faut mettre quelque chose sur le GPS, si je vous le dis autrement, façon RMC, grosse caisse. Qu'est-ce que vous en pensez, Yann Gazin?
Donc, il y a cette question-là, et pour garder aussi une métaphore maritime, il y a la question de, quand on est en bateau, on ne va pas tout droit.
Ah ben non.
Et on se laisse aussi porter par le vent et on peut regarder aussi le chemin qu'on a déjà parcouru et de regarder d'une ce qu'on aime dans notre vie et ce qu'on n'a pas envie de changer. Il y a des choses qui d'une vont pas forcément beaucoup changer. Il y a des choses qu'on a envie de garder. C'est important aussi de savoir ce qu'on veut, veut garder. Et puis, il y a ce qu'on... Alors, ça peut évoluer parce qu'on est des êtres en perpétuelle évolution. Si on avait un rêve de gosse à 5 ans, on n'a pas forcément le même à 35 ans. Mais on peut aussi s'appuyer sur ce qu'on aime faire ou ce qu'on a aimé faire, de regarder dans le passé ce qui nous a procuré de la joie, ces moments où on est dans le flow, où on ne sent pas le temps passer.
Le fameux flow. Luce.
Moi, je crois aussi que d'un point de vue concret, le rêve est un accès important pour changer sa vie. C'est-à-dire, je dirais pas le rêve éveillé, dirigé, mais une forme de rêve semi-conscient, c'est-à-dire se coucher, se relaxer, penser à ce dont on a envie et demander au rêve, je dirais aux amis esprits, de nous éclairer.
Il y a des gens qui font un travail comme ça, ils demandent à leurs rêves de les faire avancer. Il y a un travail du rêve.
Il y a un travail du rêve. Ouais, ouais. Freud dit que c'est la voie royale d'accès à l'inconscient, parce que c'est vrai que l'inconscient, par définition, il n'est pas conscient. Et le rêve peut nous éclairer. Et noter ses rêves vous réveille.
Avec il y a même des petites techniques, n'est-ce pas, Luce, pour pouvoir se souvenir mieux de ses rêves. Il y a des gens qui font des techniques avec des verres d'eau, t'en bois la moitié, tu demandes, puis tu... Il y a des techniques pour mieux se souvenir de ses rêves.
En tout cas, une technique toute simple, c'est au moins de se relaxer, de faire un petit temps de méditation et de se dire « je dors admirablement bien ». Et je vais me souvenir de tous mes rêves.
Ah, c'est beau. Comment ça vous fait écho tout ça, Christelle ?
Ça me fait beaucoup de bien, ça détend déjà.
Vous savez où vous voulez aller, vous, dans votre vie ? Vous avez fixé votre idée de changement de vie ?
Oui, j'ai bien fixé mon idée de changement de vie. Je suis en transition et en reconversion professionnelle.
Voilà, voilà. Vous faites bien de nous appeler. Vous nous appelez au bon moment. Vous nous appelez au bon moment. Exactement. Et vous savez, je pense sincèrement, en 2009, moi, j'avais écrit ce fameux livre. Je vais faire rire nos amis auditeurs parce que c'est un de mes 20 livres, mais il y a longtemps maintenant, 2009. Souvenez-vous, chers amis auditeurs, hein, quand le fameux Jacques Séguéla avait dit dans l'émission Les 4 vérités, si à 50 ans, on n'a pas de Rolex, c'est qu'on a raté sa vie. Pour prendre la défense de Sarkozy. Moi, ça, j'avais pris au pied levé cette phrase de notre cher Jacques. Et je t'ai dit quand même. D'ailleurs, il s'était fait sauter dessus par tout le monde quand il avait dit ça. Et moi, j'ai écrit un livre qui s'appelait L'homme sans Rolex. Alors, j'avais appelé un livre L'homme sans Rolex. Et évidemment, le cagneux que je suis, c'était en écho avec ce chef-d'œuvre de Robert Musil, L'homme sans qualité, bien entendu. Mais c'était aussi que je me suis retrouvé en plateau télé face à Jacques Séguéla, qui lui venait d'écrire des livres sur la politique et tout. Et il est sympa. Il est sympa, il est adorable ces gars-là. Mais il a rien compris au titre. Et le sous-titre de l'émission, c'était « Qu'est-ce que changer sa vie en temps de crise ?» Donc j'avais essayé de comprendre, comme Luce aussi, mais avec des perspectives complètement différentes. Et c'est vrai que, est-ce qu'à 50 ans, si t'as pas de Rolex, t'as raté ta vie ? On se comprend, Christelle ? La réponse est non. On est d'accord, même à 80 ans, t'as le droit d'avoir pas de Rolex et d'avoir réussi ta vie. Mais c'est la vraie question que pose Luce en filigrane et qu'on se pose tous. Qu'est-ce que c'est une vie accomplie ? Luce Jeannin de Villard, qu'est-ce que c'est une vie accomplie ?
Alors, c'est déjà, je crois, tourner le dos aux têtes de gondole des librairies, la FNAC et d'autres, et plein, hein, c'est pas contre la FNAC, où il y a écrit « Le bonheur avec le Dalai Lama ». Le bonheur avec Marcel le gourou. Le bonheur en mangeant des nouilles. Arrêtez. On ne peut pas vivre une espèce de temps de bonheur ascensionnel et continu. Et il y a une phrase que j'aime bien, je ne sais plus de qui, Confucius peut-être. C'est « Quand tu rencontres Dieu, tu le. Et si tu grimpes au sommet de la montagne, tu es bien obligé de redescendre. » Donc être bien, réussir sa vie, être heureux, c'est des temps. C'est comme un train ou comme un bracelet avec de grosses mailles. Et il y a des wagons du train où il y a des mailles qui sont moins heureuses que d'autres. Et alors, so what ?
Même ça, c'est à traverser.
Même ça.
Même ça, c'est un cadeau aussi.
Même ça, c'est l'incarnation, c'est un cadeau qui n'est pas fait que de d'eau de rose et j'allais dire de rosé. Le rosé est meilleur quand même.
Oui, Irène.
Complètement, il y a cette notion où quelquefois d'avoir une espèce de fantasme de ce que pourrait être le bonheur, alors que concrètement, tout le monde peut le vivre au quotidien. Ça peut être des petites choses. En Gestalt, on parle à certains moments d'appréciation, de se dire qu'est-ce que j'aime là, maintenant, tout de suite. Est-ce que c'est le ciel ? Est-ce que c'est d'être dans une pièce où qu'elle a la température idéale, où on est bien au chaud, de se dire qu'est-ce que j'apprécie là maintenant.
Et là, ce qu'on apprécie, nous, c'est de faire cette émission ensemble.
Et de faire cette émission
avec Irène, voilà, et
avec des gens passionnants. Voilà, voilà. Il y a cette question de qu'est-ce que j'apprécie là maintenant.
Alors là, un peu dans le carpe diem, carpe horam, n'est-ce pas, hein ?
Oui.
Une vision romaine du cueilleur.
Tout à fait, c'est très juste ce que dit Irène. Et en même temps, je pense qu'on apprécie des moments de bonheur et même des moments de bonheur intense parce qu'on a connu des moments différents.
C'est vrai.
C'est-à-dire, il y a cette rencontre entre le blanc et le noir, le jour et la nuit, et la béatitude complète du bonheur intense et permanent. C'est comme un médicament.
C'est comme si on marchait sur un échiquier. Oui. Il y a des cases noires et il y a des cases blanches. On va vous embrasser, Christelle. Et merci d'avoir participé à Vivons Coaché. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Et puis à très bientôt, on passe une page musicale, on va continuer à dérouler le magnifique livre de Luciana. Restez avec nous, c'est passionnant.
C'est décidé, cette nuit je pars. Il n'en sait rien, il lit son journal. Je n'ai pas osé lui parler. Prochain printemps, il faudra me faire un enfant. Je me sens vide tout au fond de moi. Pour le quitter, pour courir vers toi, j'ai besoin d'entendre ta voix. Le courage me manque.
La grande, l'immense Nicole Croisier avec sa voix incroyable était avec nous. Vous êtes toujours avec Christophe Médici dans Pour vivre heureux, vivant coaché. Nous avons la chance d'avoir comme invité Luce Janin de Villars. Luce, nous en étions à toutes ces histoires de changement. Et j'ai envie de vous dire, à un moment donné, vous parlez de ces vilaines histoires encryptées dans les familles. Alors moi, j'ai adoré. Je crois qu'il y a des personnalités, comme dit Boris Cyrulnik, cryptées, qui ont des cryptes à l'intérieur. On sent que c'est des mystères et des mystères. On parle souvent des secrets de famille, n'est-ce pas, Luce ? Ça peut être quand même des freins au changement, ces personnalités, ces histoires encryptées, Luciana.
Oui, parce que les secrets de famille, ça se déclenche sur 3 générations. Vous savez, il y a la génération du secret. La tante Adèle était au bord du puits quand on était au marché. Quand on rentre, elle est tombée. Est-ce qu'on l'a poussée ou est-ce qu'elle s'est jetée dans le puits ? Première génération qui connaît l'histoire, mais l'histoire est honteuse, humiliante. Deuxième génération, il reste des morceaux. On s'en souvient vaguement. Troisième génération, c'est la génération du secret. Car ce qui n'a pas été posé, dit, partagé, digéré, va réapparaître, possiblement, c'est pas toujours le cas, sous forme de symptômes. Et il y a des secrets encryptés autour de l'amour, autour de la réussite, autour de la vie professionnelle, qui peuvent nous empêcher d'avancer, de réussir quelque chose qui nous plaît vraiment, parce qu'on se comporte comme des cryptes avec un fantôme à l'intérieur de nous. Les fantômes, c'est pas seulement dans les vieux châteaux écossais, hein,
c'est dans nos têtes aussi.
C'est dans nos têtes, c'est dans beaucoup d'endroits.
Et dans des institutions. Irène, ces histoires de personnalités encryptées et de cryptes dans les institutions, notamment la primiceps pour tout le monde, des institutions qui est la famille.
C'est vraiment ce qu'on disait au départ de cet inconscient qui nous dirige, parce que plus c'est caché et plus ça va agir sur nous sans qu'on le sache, en fait. Plus ça, je dirais presque nous agit, plus on est les pantins de ces histoires-là. On est agi par ces histoires, plus on est le pantin de ces histoires, avec un moment où une espèce de conscience de qu'est-ce que je fais là, et peut-être qu'on est en train de réparer cette histoire de l'attente. Cette histoire latente de l'attente. Il y a quelque chose comme ça qui se passe, et plus on a conscience de ces histoires-là, et plus on peut retrouver possession de nos vies.
Lujana.
Oui, tout à fait. J'ai été confrontée à des fantômes, pas en ce qui me concerne, mais avec des patients. Il y a une histoire qui n'est pas celle d'un de mes patients, mais qui m'a été racontée par un ami qui est psychanalyste. Il va recevoir une dame, qui d'un seul coup s'est mis à nettoyer toute la maison, à être obsédée par la saleté. Ça passe pas. Et puis ça évolue, ça s'aggrave, et elle voit des pollutions partout. Des pollutions de sperme. Et elle s'imagine que son mari, ses enfants, elle a deux garçons, passent leur temps à faire ça quand elle n'est pas là. Et ça devient quelque chose d'absolument obsédant. Elle ne parle que de ça dans ses séances. Et mon amie me dit un jour, comme elle était passionnée par le propre et le sale, elle me racontait aussi des histoires de lessives, de produits qui nettoyaient mieux que d'autres. Et moi, je m'endormais dans le ronron des machines et des lessives. Et un jour, endormie, je lui demande « Comment êtes-vous née ?» Je lui dis « Mais pourquoi tu as posé une question pareille ?» Il dit « Je ne sais pas. » Alors, elle ne savait pas, elle est partie. Et quand elle est revenue, elle a dit « Alors j'ai appelé ma mère et je lui ai dit, tu sais ce qu'il m'a demandé, mon psychanalyste, comment j'étais née ? Et ma mère a répondu, comment l'a-t-il su ? Et cette femme était née pendant la guerre d'une mère qui avait eu plusieurs aventures. Il n'y avait pas de test ADN, elle allait d'homme en homme. Et un jour, elle a rencontré le père non biologique de cette femme qui a dit, gardons l'enfant, elle sera... Mon enfant, je ne savais pas que c'était une fille, et ne lui disons rien.
Et donc, en synchronicité, presque d'une manière transversale, ce qu'elle racontait, c'était cette chose que la vérité de la vie amoureuse de sa mère.
C'est ça, et elle a raconté cette histoire a émergé sous forme d'un symptôme terriblement difficile vers la cinquantaine.
À la cinquantaine. Alors, Irène Cazenave.
Mais évidemment, là, évidemment, c'est encore l'inconscient qui parle et qui veut faire émerger cette vérité. On dit que l'inconscient de la mère communique avec celui l'enfant. Donc, il y a un moment où les informations sont cachées de la parole, mais elles ne sont pas cachées des cellules de la personne. Donc, ça émerge comme ça émerge souvent avec des symptômes, effectivement.
Est-ce que vous dites, mesdames, les thérapeutes, me fait penser à cette magnifique phrase de Borges, « Tout humain, chers amis auditeurs, a trois vies. Une vie sociale, une vie privée et une vie secrète. » Et mémorisez bien ça. On passe une page musicale et on continue à égrener les passages du livre de Lujana.
S'en va, destination Bahia, Buenos Aires ou Cuba. Ah, prends soin de l'opéra, de la rue des Lilas. Dis-leur que cette fois, ah. Un trait, je ferme la valise. Destination Zagreb via Venise. Je souffle la bougie, je me dessine une folie. Les doigts croisés sur l'infini, je dis salut. Et peut-être qu'un jour, je serai de retour. Qui peut me dire comment l'exil vient aux errants. Le vol de nuit s'en va,
attendrait, me tiendra chaud le temps qu'il me reste. J'ai la gueule trop pâle qui rêve de lune et d'étoiles. Cette fois-ci je mets les voiles, je dis bon vent, peut-être à demain. N'oubliez pas frangin, je change de chemin, je change de beau temps. Oh, je pars, le vol de nuit s'en va.
Nicolas Perrac qui parle, et oui, il part. Changer de vie, c'est parfois partir. C'est pour ça que j'ai mis des chansons au cours de l'émission où parfois c'est prendre une nouvelle trajectoire. Donc changer qui de pays, qui de région, qui de métier, qui d'homme, qui de femme, changer d'amour. Nous sommes toujours avec Luz Jana de Villars pour son magnifique livre chez Robert Laffont, Michel Laffont décidément. Changer sa vie, il n'est jamais trop tard. Et Irène Cazenave, vous dites à un moment donné, il y a un chapitre là-dessus, Luz, que le changement ne s'improvise pas. Ça ne s'improvise pas, ça se prépare, ça se travaille, ça...
Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a ce temps d'improvisation où on commence à se dire « ça va pas, j'en ai assez, je suis fatiguée, je m'ennuie » par exemple. Et puis ce temps où si cette insatisfaction se maintient, où il est nécessaire de commencer à préparer le changement. Je trouve aussi que je parlais tout à l'heure de la carte du trésor, je parlais d'écrire. Je pense aussi qu'en parler autour de soi est quelque chose d'important. Alors très souvent, et en particulier dans un cercle premier qui est concerné par le changement, on va pas forcément recevoir des appuis. Mais c'est intéressant de se confronter à l'idée des autres. Et puis, ça se prépare aussi parce que changer le métier, ça nécessite de se dire économiquement, où est-ce que j'en suis ? Est-ce que j'ai les moyens d'arrêter de travailler ou en tout cas de travailler moins pour m'offrir une formation qui d'ailleurs sera peut-être payante ? Est-ce que si je quitte ma maison, j'ai les moyens de déménager avec ce que ça coûte en termes d'énergie, de temps, de déplacement, etc., etc. C'est-à-dire ne pas improviser le changement.
En même temps, Luz, je sais pas, j'aimerais votre sentiment là-dessus parce que l'espèce humaine, elle est très ambivalente vis-à-vis du changement. En fait, le changement, beaucoup d'êtres humains le désirent, en même temps le craignent. Le changement, c'est vrai que souvent les gens sont dans des zones de confort qui sont vraiment inconfortables pour beaucoup, qui sur la scène de l'amour familial, professionnel. Mais on voit bien aussi que les êtres humains sont ambivalents. Et d'ailleurs, les neurosciences nous le prouvent. Notre cerveau, il est plutôt conservateur que on dirait progressiste. Notre cerveau, il aime bien ce qu'il connaît. Il aime bien appuyer sur les boutons qu'il connaît. Pourquoi les êtres humains sont-ils si ambivalents vis-à-vis du changement et que volins nolins, il n'y a pas grand monde qui veut devenir la meilleure version de soi-même. Beaucoup d'hommes et de femmes sont la 9e, la 8e, la 6e version de soi-même. Souvenez-vous de la chanson « Tu la voyais pas comme ça, ta vie. Tu la voyais pas comme ça, frérot. C'est pas toi qui y es, c'est pas toi qui es beau. » C'est le bagad de l'ambiouet de Souchon, hein. Il est petit caporal de supermarché, il est dans... Pourquoi les humains sont-ils aussi ambivalents? Faut du courage pour changer, n'est-ce pas?
Alors, il faut du courage, mais la meilleure version de soi-même, c'est un peu le jingle du développement personnel, c'est aussi le jingle du coaching. Et faisons attention au refrain. C'est chantant, c'est agréable à entendre, on aime danser. C'est pas forcément ce qui nous convient. Et ne pas avoir envie de changer tout en changeant, c'est aussi parce que on a peur de se déraciner. On a une histoire, un marquage. On a un cerveau plastique. Il y a des impressions en creux, en relief. Il y a un film intérieur. Et puis il y a des gens autour de nous. Et parfois c'est pas si facile que ça de les entraîner dans le changement et voire de les déraciner aussi.
Irène, le changement, l'ambivalence vis-à-vis du changement.
Complètement, il y a cette question de on fait partie d'un système, on fait partie de famille, donc c'est et il y a cette question aussi de loyauté, donc ce changement, il est compliqué et souvent il y a des gens aussi qui se racontent j'aimerais changer mais pour rester dans ce quoi ils sont. C'est Luz Jana en parle de cette question de d'être dans une espèce de fantasme de changement qui n'est pas une réelle envie de changement, qui est plus un fantasme. Et ça me semble important de pouvoir faire la distinction entre ce qui fait partie d'un fantasme et ce qui fait partie d'une envie. Sachant qu'il y a des choses qui quelquefois font pas partie d'une envie parce que on manque d'estime de soi, on manque de confiance en soi. Donc ça, c'est aussi des choses qui se travaillent.
C'est vrai que vous distinguez ça entre le fantasme et le désir. Le fantasme, vous avez un passage là-dessus, Lujana.
Oui, oui, je me rappelle très bien distinguer entre le fantasme et le désir. Le fantasme est utile, hein. On a besoin de fantasmer toutes sortes de choses inquiétantes, dangereuses, irréalisables, justement pour conserver une forme d'équilibre. Et en termes de changement, il est certainement utile de rêver le changement à certains moments. Et si le désir nous taraude, si l'enthousiasme ou au contraire la douleur de rester le même ou la même dans la même histoire nous meut de façon régulière, alors il est probable que c'est un désir.
On va passer une nouvelle page musicale, restez avec nous, je sais que vous êtes nombreux à vouloir, on va essayer de passer de nouveaux auditeurs. À tout de suite, c'est passionnant.
Tout doucement, envie de changer l'atmosphère d'attitude. Tout doucement, besoin d'amour pour remplacer l'habitude. Tout simplement, arrêter les minutes supplémentaires qui font de ma vie un enfer. Je l'aime encore, mais plus vraiment. Tout doucement, sorti de ses draps et de son cœur. Tout doucement, sans faire de bruit pour pas qu'il pleure. Tout simplement, changer de peau, oublier toutes les avant. Fermer les yeux, se sentir de nouveau. Autrement, tout simplement, permet pour cause un sentiment différent. Reviendrait peut-être un jour, un mois, un an, dans son cœur, dans sa tête. Si encore il m'attend, tout simplement, permet pour cause un sentiment différent. Dans mon cœur, dans ma tête, changer tout vraiment. Curieusement, mes aiguilles, tous mes seins ne sont pas celles du temps qui passe, presque en silence, quand on debut en serre. C'est pas vraiment la solitude, mais c'est la certitude d'un sentiment indépendant de son attitude. Tout simplement, fermé pour cause des sentiments différents. Reviendrait peut-être un jour, un mois, un an, dans son cœur, dans sa tête. Changer tout vraiment. Sur la pointe du cœur, tourner la page. Tout simplement, choisir un nouveau livre d'images. Tout doucement, réapprendre à aimer passionnément. Tout simplement, une autre histoire dans un monde différent. Tout simplement, pour pas des sentiments différents. Reviendrait peut-être un jour, un mois, un an, dans son cœur, dans sa tête. Si encore il m'attend, tout simplement, fermé pour pas des sentiments différents. Tout simplement.
encore dans sa tête.
Pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu, des plus belles chansons de ces 40 dernières années. Bibi, tout doucement. Vous êtes toujours avec Christophe Médici dans Pour vivre heureux, vivons coachés et non pas cachés. Avec lui, Jeannin de Villars, pour son fameux livre Changer sa vie, on a un nouveau radio coaché.
Christophe Médici, Radio Coaché.
Bonjour Ayat.
Bonjour.
Nous sommes ravis de vous accueillir dans l'émission. Qu'est-ce que vous aimeriez poser comme question à Jeannin de Villars?
Bonjour Madame Jeannin de Villars.
Bonjour.
J'aimerais en fait avoir des réponses sur, en fait, lorsqu'on souhaite se libérer, changer de vie,
oui.
Comment arriver à se libérer, à se débarrasser de ces freins, de ces blocages.
Ah, de se libérer de ces freins qu'on peut avoir quand on a envie de changer de trajectoire de vie. Luce Jeannin de Villars, les freins, il y a un chapitre là-dessus dans votre livre, hein, sur ouais. Les blocages, les freins.
Sûrement, mais en tout cas, on ne peut pas s'en débarrasser avec des trucs. Autrement dit, ce n'est pas une recette de cuisine. Je ne pourrais pas fournir les recettes de Tante Marie pour le changement. C'est démarrer un travail personnel avec l'outil qui Ayat, qui vous convient le mieux. Je ne vends pas un outil plus qu'un autre. C'est peut-être la prière, la méditation, une psychothérapie, une psychanalyse, de l'hypnose, ça m'est égal. Mais
travailler sur soi.
Travailler sur soi. Et on a besoin de l'altérité de l'autre pour travailler sur soi. La seule personne à ma connaissance qui n'a pas travaillé sur soi avec quelqu'un d'autre, c'est Freud. Mais il avait au moins quelqu'un à qui il écrivait, son grand ami Fliss. Ils ont échangé des centaines de lettres. Il faut avoir un retour. Il faut avoir un miroir en face de soi qui vous regarde et qui vous écoute pour trouver les clés et le moteur du changement.
Irène Cazenave, par rapport à ce que propose, demande Ayat et ce qu'a dit Luce.
Oui, alors déjà, pour en revenir sur les freins, il y a cette question, on ne s'en débarrasse pas des freins. On peut déjà, le premier changement, c'est de les regarder différemment. Et effectivement, dans ce cas-là, l'autre aide beaucoup. On a tous des freins, et j'ai envie de dire, heureusement, il n'y a que les psychopathes qui n'ont pas de scrupules.
Qui sont sans filtre.
Heureusement, après, quelquefois, il y en a le frein à main qui est un peu trop serré, vous peut-être un peu le desserrer, mais garder dans une voiture, il y a toujours besoin du frein. Donc il y a cette question de pouvoir le regarder différemment, de prendre de la distance aussi par rapport à ces freins. Et effectivement,
après moi, ce que j'entends dans la métaphore des freins, si je peux me permettre, hein, Irène, c'est plutôt l'idée des blocages. Il y a un sous-chapitre dans le livre de Luce qui est là-dessus sur les programmations de l'enfance et d'ailleurs la PNL a bien travaillé là-dessus et vous parlez de tous les points des programmations, n'est-ce pas Luce? Ça c'est des blocages.
Mais oui, tout ce que, et c'est ce que j'avais compris dans
de Ayat, oui. Moi je comprends
Ayat,
ça dans la question d'ailleurs.
C'est-à-dire pourquoi qu'est-ce qui fait que j'ai pas suffisamment confiance en moi, qu'est-ce qui fait que je me donne pas assez de valeur, et ça c'est où c'est je réussirai pas, c'est trop long, c'est trop dur. C'est trop haut pour moi.
C'est très souvent
des phrases clés. Alors encore
c'est
une
des
fois,
croyances limitantes, ça, Luce.
C'est des croyances limitantes, ouais. Mais encore une fois, c'est des jingles qu'en général, on a entendus à l'intérieur de sa famille, soit de la part de gens très proches, soit dans un environnement un peu plus large, éventuellement à l'école. Et parfois, ce n'est pas forcément des informations verbales que nos parents nous envoient, mais c'est ce qu'eux-mêmes pensent d'eux-mêmes. C'est-à-dire si on a un père et une mère qui se dit bah voilà j'y arriverai pas de toute façon voilà je pourrai jamais monter ma boîte, en fait même s'il n'énonce pas ça verbalement à son enfant, l'enfant peut l'entendre puisque nous communiquons grâce aux neurones miroirs mais aussi grâce à l'énergie, nous communiquons sans parole.
Qu'en pensez-vous Ayat de tout ce que nous disent nos cliniciennes là?
Je trouve les réponses très intéressantes.
Ouais.
Et effectivement, le fait de prendre conscience des choses et d'être accompagné
par ouais.
Un thérapeute ou autre.
Oui, j'ai envie de vous dire que ce qu'elles nous disent me fait penser un peu à quand je donne des conférences. Parfois, je fais rire les auditoires en disant, je vais vous dire la potion magique, un peu comme Astérix, ce serait MMA. Alors MMA, c'est pas zéro blabla, zéro tracas, quoique. En fait, M, c'est une motivation. Je crois que vraiment, pour dépasser tout ça, il y a une motivation nécessaire, et la motivation te donne ce que Camus avait appelé dans L'homme révolté, c'est cette rage de la révolte, ce qui donne les gens résilients d'ailleurs. Cyrulnik met ça comme ingrédient, c'est-à-dire d'avoir la motivation. Le deuxième M, c'est une méthode. Franchement, je ne crois pas, elle a dit d'ailleurs, suivez une voie, laquelle vous voulez, mais en tout cas, des méthodes. J'aime beaucoup le mot méthode, chers auditeurs, parce qu'il vient du grec meta-odo, c'est-à-dire le chemin qui te mène plus loin, aller au-delà, un peu plus loin, et sans méthode. Franchement, un humain va pas très loin, que ce soit pour la vie clinicienne, intellectuelle, entrepreneuriale, scientifique, artistique. Faut de la méthode, Stanislavski pour les comédiens, n'est-ce pas? Et puis le A, c'est un accompagnement. Voilà. Et vous choisissez celui qui vous convient. Irène Cazenave.
Oui, complètement. Et il y a vraiment cette question aussi de savoir, on parle de freins ou de blocages, ceux qui nous appartiennent, qui nous conviennent, et ceux qui ne nous appartiennent pas. Enfin, quand ils nous conviennent, ils ne nous conviennent plus. Mais vraiment sentir ceux qui nous appartiennent et ceux qui appartiennent à notre famille, qui nous ont transmis, soit par les mots, soit simplement parce que souvent l'anxiété ou le manque de confiance, ça se transmet sans
de la
sans
part
parole.
De la mère ou du père.
De la part des parents. Parce qu'ils sont, ils sont comme ça, et que ça permet, là encore, en restant anxieux, de garder l'amour et la loyauté. Mais ce qui est important, c'est de regarder ce qu'il y a derrière. C'est de l'amour pour ses parents. Il n'y a pas besoin de rester anxieux et de manquer de confiance pour rester avec ses parents. C'est de vraiment pouvoir dissocier ça. Quand je disais tout à l'heure de tirer un peu sur de pousser le frein, c'était de se dire, qu'est-ce qu'il y a derrière ça?
Par rapport à ce que dit Irène.
Oui, je suis assez d'accord. Effectivement, d'abord, on a tout à fait le droit de quitter ses parents. On a le droit de ne pas aimer ses parents. Il faut sortir du conformisme. Il faut sortir de la bouillie. C'est très, très important. Et ça ne veut pas dire qu'il faut leur faire du mal. Mais il n'y a pas nécessité à aimer des gens parce que nous avons des liens de sang, des liens génétiques. On peut tout à fait aimer, soutenir, être soutenu par des gens qui n'ont pas de lien génétique avec nous. Et il faut, quand on se dit, par exemple, je n'ai pas confiance, on me le raconte, on me dit, j'ai pas confiance, je vais pas y arriver, c'est trop haut pour moi. Je dis, je vous arrête, qui parle?
Qui parle en vous?
Qui parle en vous?
Qui parle en vous? On va vous remercier, Ayat, vous avez été formidable, on vous embrasse.
Merci à vous.
Merci. Et à très bientôt. On va continuer, Luce, par un sujet qui est complètement d'actualité, et qui est un des derniers chapitres de votre livre, mais alors vraiment, ça a pris de l'ampleur. C'est changer son image de soi, changer son physique. Et alors là, on est au cœur, mais alors de l'actu, parce que ces derniers mois, ça s'est accéléré. Bon, vous faites des passages de clinicienne. Vous êtes une immense clinicienne, Luce, hein, vous êtes très connue. Donc, on va pas parler de ces passages-là. Mais quand même, Luce, là, on est à une époque quand même. Tous les derniers chapitres de votre livre sur changer son image de soi, de l'homme ou la femme transsexuelle. Alors là, vous parlez plutôt de l'homme ou de la femme. Mais là, on y est à plein tube. Ça devient, entre guillemets, exponentiel. Nous-mêmes, à la radio, il y a une poignée de mois, n'est-ce pas, un jeune qui faisait un stage chez nous, là, j'ai vu tout de suite qu'elle était en changement. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un symptôme de quoi, là, de notre civilisation? Les yels, le changement de physique, l'envie de changer de sexe? Luce Janin.
Je crois que c'est une réaction d'autonomie et de liberté. C'est pas forcément souhaitable. C'est pas forcément ça qui va nous rendre heureux. Mais c'est une façon de secouer des chaînes dans un monde très très genré, très très patriarcal, où ce que doit faire un homme, ce que doit faire une femme, c'est resté longtemps quelque chose de l'ordre d'une espèce de cahier des charges. Et il y a des personnes qui ne s'y retrouvent pas dans ce cahier des charges. Et elles pensent alors qu'elles seraient mieux en femme, en homme. Je ne sais pas si c'est juste, si c'est le chemin à suivre. Et en tout cas, c'est un chemin qu'on doit prendre avec beaucoup de prudence, en se faisant aider précisément, en étant accompagné, et sur la durée. Mais c'est certainement s'autoriser quelque chose.
Irène Cazenave.
Il y a cette question où c'est exponentiel, parce que plus on en parle, plus aussi ça vient élargir le champ des possibles de quelqu'un qui se sent pas bien dans sa peau. Il y a cette possibilité qui est maintenant connue et
on
reconnue.
On voyait pas ça il y a 20 ans quand même. Hein.
Non, mais on n'en parlait pas non plus. Et donc plus plus on en parle, plus
ça rentre.
Vous pensez
que c'est parce qu'on en parle,
de...
on n'est plus libre dans la parole de ça, ouais.
En tout cas, ça rentre dans le champ des possibles à un autre titre quand il y a un suicide. Des fois, il y a des vagues de suicide parce que ça vient dans le champ des possibles de certaines personnes. Donc, c'est plus on en parle, plus ça rentre dans le champ des possibles d'un choix possible, envisageable.
Je sais pas. Alors moi, je vous trouve quand même bon. C'est vous les thérapeutes, hein, mais je pense que c'est quand même un des stigmates d'une civilisation en décadence.
J'entends bien ce que vous dites. Ouais. C'est le stigmate d'une société qui globalement est très très narcissique. Et c'est l'éducation qui construit le narcissisme, c'est-à-dire ce que moi j'appelle le personal branding, la construction de sa propre entreprise de soi. C'est-à-dire, voilà, j'ai pu l'école ou j'ai pu l'église, j'ai pu un certain nombre de règles peut-être étroites et conformistes, mais en tout cas un cadre. Et alors je suis sommée de m'inventer moi-même, de sorte que si je me sens pas bien en fille, eh bien peut-être que je vais imaginer me transformer. Tout simplement. Voilà, mais le narcissisme, il touche très largement le système complet dans lequel on est. Quand j'évoquais tout à l'heure les jingles, il faut être heureux, il faut être beau, il faut être mince, oh non, vous avez le droit d'être gros. C'est constant.
Mais c'est, quand vous parlez de personal branding, lui, c'est la culture Instagram. Je veux dire, c'est la culture, la culture de l'image des réseaux sociaux. C'est la culture.
Aussi.
Je crois qu'on voulait faire bientôt une émission là-dessus avec les influenceuses qui, voilà, on va ressembler à Kenza, mon influenceuse, qui a 40 millions de gens qui la suivent. Et je pense qu'il faudra vraiment qu'on fasse une émission là-dessus. Vous reviendrez aussi, d'ailleurs, Luce, ça, c'est vrai. Parce que le problème du processus, allez, on va pousser un petit peu 10 secondes, du processus d'identification, projection, transfert. Et là, problématique, je suis une personne en quête d'identité. On voit bien avec les problèmes de l'acide hyaluronique et tout ça, dont les gamines de 12-13 ans à 14 ans veulent changer de lèvres, changer de nez, et ça fait, elles deviennent des monstres à un moment donné, Irène. On peut pas cautionner ça. Ça va pas du tout. Et surtout qu'ils vendent de la merde à nos mômes. Et qu'aujourd'hui, les héros de nos mômes, c'est plus leur prof. Je me fais un coup de gueule à la Gabin, là. C'est Kenza. Et là, moi, je le disais à France 3 l'autre jour, on est dans une époque où on donne 5 euros à quelqu'un qui conseille et 10 millions à une imbécile qui se dort le cul à Dubaï, mais qui a 40 millions de gens sur Insta. Oh, je fais ma gueulante à la Jean Gabin. Mais ça va plus du tout, ça.
Il y a vraiment deux sujets. D'une, la protection, la sainte colère. La saine colère.
Oui.
La question, il y a deux choses. Il y a d'une la protection des enfants. Et
oui.
Il y a autre chose, c'est comment, avec toutes les injonctions qu'on a, ces injonctions contradictoires, où il faut, les injonctions, il faut être comme ça avec les gens qui se développent sur
les réseaux sociaux,
avec des filtres, etc. Il y a vraiment la question de l'individualité. Il y a aussi la question de toute la pression qu'il y a en tant qu'individu parce qu'il y a moins de soutien du groupe.
Lujana.
Oui, c'est vrai. C'est une injonction constante. J'appelle ça, évidemment, c'est pas moi qui l'ai inventé, le personal branding, c'est-à-dire je suis une entreprise qui doit avoir des followers, avoir des fans, avoir du public, avoir des sous, enfin, avoir toutes sortes de choses. Et en fonction de ce que je suis, il y a des messages qui vont me toucher plus que d'autres. Alors, sur la minceur, sur le bonheur, sur être une meilleure version de moi-même. Forcément, quand on écoute de la musique, on l'a fait tout à l'heure, il y a des musiques que nous aimons et d'autres moins, et celles qui nous impactent, pour certains d'entre nous, elles vont nous amener dans un courant. Et dans ce système narcissique où je m'auto-réalise, eh bien, si j'ai pas envie de mon sexe, de ce sexe-là, de fille, eh bien, j'entends, en tout cas en Occident, que c'est possible.
Mais ça fait des dégâts, me disent certains cliniciens, c'est que maintenant l'accompagnement est trop rapide et qu'il y a beaucoup de gens qui le regrettent, Luce. Parce qu'on dit, vous le dites dans votre livre, que normalement à partir de 3 ans, quelqu'un qui a vraiment besoin de devenir transsexuel, entre 3 et 6 ans, vous le dites dans votre livre, Luce, hein, le ressent déjà. On le ressent pas à 16 ans, ça. On le ressent pas à 17 ans. Et je demandais à un de mes stagiaires, je dirais son nom, qui était femme et qui est devenu homme, mais il est de nos générations, donc lui, il a pas à 16 ans. Quand il est devenu homme, il est même devenu policier, hein, et vous verrez maintenant, on ne voit plus du, évidemment, eh bien, il m'a dit, j'ai été accompagné des années et des années et des années par des psychiatres, des années par des, vraiment, des gens qui voulaient vraiment savoir ce que je faisais, Luce. On peut pas faire ça en claquant les doigts.
Ah, mais pas du tout. Il y a peut-être, alors je les connais pas, il y a peut-être des charlatans, médicaux ou médico-psychologiques qui font ça en trois coups de cuillère à peau, mais normalement, on fait une demande, on s'inscrit dans un hôpital, je pense à Marseille où j'en connais un très bien, il y a un service. Et pendant un certain temps, on est accompagné par des psychiatres, par des psychologues, par des gens qui sont ni psychologues ni psychiatres d'ailleurs, mais qui vous accompagnent et qui vous écoutent et qui essaient de comprendre ce qui se joue dans ce choix qui émerge chez vous à un moment donné. Il s'agit de savoir si justement c'est quelque chose de fort, quelque chose de profond, ou bien si c'est une sorte de fantasme.
Eh ben écoutez, c'était passionnant. Irène, un dernier mot là-dessus ?
C'est très complexe, mais c'est vraiment une question de... La question, c'est de savoir si la personne fait ce choix en réelle conscience.
En réelle conscience. Chers amis auditeurs, merci d'avoir participé à cette émission. Luce, ce fut une joie. Vous allez revenir pour un nouveau livre et on refera une belle émission. En tout cas, Luce Janin, on rappelle le titre de votre livre, Changer sa vie, il n'est jamais trop tard, chez Michel Lafond. Et je vous conseille vraiment de le lire parce que tous les chapitres donnent des clés profondes et intéressantes. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Vivant Coaché sur Dynamique Radio, la numéro 1 des radios. Et bien écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Pour Vivre Heureux, Vivons Coaché. Merci à la réalisation sans qui cette émission n'aurait pas pu exister. Merci Luce, toute notre gratitude.
Merci Christophe et merci
Irène.
Merci.
Vivre Heureux, Vivons Coaché, une émission produite et réalisée par Christophe Médicis.